les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un roman où règne la violence, la maladie, la cruauté, la mort, la folie, n'oublions pas la vengeance, et qui est aussi un des grands romans d'amour du XIXe siècle. Et tout cela se passe sur la lande et au milieu des hurlements du vent. Un roman à relire toute sa vie, un roman choisi dans l'émission « Plaisir de la lecture » le 27 février 1958 sur France 3 Nationale par Michel Manol.
Notre série « Plaisir de la lecture » se poursuit à présent avec un entretien de M. Michel Manol consacré au chef-d'œuvre d'Émilie Brontë, « Léo de Hurlevent » dont Jean Topart nous lira quelques pages.
On ne peut lire « Léo de Hurlevent » sans évoquer la figure étrange d'Émilie Brontë qui, au sein d'une solitude physique et morale volontairement acceptée, tenta de suivre, selon la parole de Novalis, le chemin qui va vers l'intérieur. Cette fille de pasteur, qui ne connut pour horizon que les paysages austères des Moors du Yorkshire, et qui ignora hors l'affection qu'il attachait à sa famille, tout amour humain, nous a laissé cependant, avec Léo de Hurlevent, un roman de glace et de feu, d'une extraordinaire pénétration psychologique qui ouvre sur le problème du mal et sur celui de la passion les perspectives les plus neuves et les plus mystérieuses. Le génie d'Emily Brontë est un phénomène littéraire dont nul ne parvint jamais à pénétrer le secret. Il reste relié sans doute à ces états d'âme mystiques qui sont un des penchants naturels de l'humanité, mais aussi à l'affrontement d'une conscience repliée sur elle-même et livrée cependant à ce monde réel, peuplé d'êtres de chair, que seule l'imagination créatrice peut transfigurer. Ce rôle de l'imagination est prépondérant dans l'œuvre qui nous occupe. Si le romantisme a mis particulièrement l'accent sur les pouvoirs du rêve, sur le côté visionnaire de notre nature, on peut bien dire qu'Emily Brontë s'y rattache directement par un romantisme personnel et subjectif, s'insérant dans un cadre narratif très ample et s'exprimant par un style d'une force évocatrice sans égale. Le roman dont nous parlons fut écrit vraisemblablement aux environs de 1845, nous en sommes réduits à des conjectures sur ce point, Emily Brontë ayant détruit tous ses manuscrits, c'est-à-dire à un moment où le romantisme connaissait un net déclin en Angleterre. Sa période d'épanouissement peut se situer en effet entre 1766 avec le vicaire de Wakefield et 1832, date de la mort de Walter Scott. N'oublions pas cependant que dans le presbytère de Haworth, où Emily vivait avec son père et ses sœurs, Coleridge et Wordsworth, Shelley, Burns et Byron étaient des auteurs de prédilection. Byron, surtout, à l'âme inquiète et désespérée, soumise aux violences de la passion, hantée de mystérieux remords, et s'exaspérant de ne pouvoir maintenir une harmonie entre la nature et le moi profond. On retrouvera en Emily Brontë et dans les personnages de ce roman des âmes égales à celles du chantre de Childe Harold. Comme la sienne, elles sont possédées d'une frénésie imaginative, harcelées de préoccupations métaphysiques, envahies par le surnaturel, ignorantes de toute morale établie, chargées d'interrogations sur le mystère de l'être et de la vie. Mais le sombre éclairage que donne Emily Brontë sur la condition humaine dépasse singulièrement l'expression littéraire. Si, comme Shelley, elle a soulevé le voile de la beauté cachée du monde et pénétré dans des régions voisines de l'enfer du Dante, c'est par une exigence de lucidité, de sincérité et d'intensité qui touche à nos sources les plus cachées. Oui, Léo de Hurlevent vont au-delà de toute école littéraire pour s'appuyer sur une vision très concrète de l'homme saisi dans sa misère morale, ses contradictions et sa soif d'absolu. Si l'auteur fait participer pour la première fois la poésie au roman, c'est pour en accentuer la puissance dramatique et pour ajouter aux détails significatifs, aux traits révélateurs, cette aura de rêve qui en avive la lumière et en accuse les contours les plus secrets. On ne saurait trop souligner que l'auteur de ce roman est avant tout un créateur de caractère et que les personnages qu'il nous dépeint luttent, comme elle le fit elle-même sur le plan imaginaire, contre l'épreuve de la vie, sans avoir d'autre recours que le pouvoir conjurateur de la nature, qui n'est là que pour préparer le repli de l'âme solitaire. Quels sont-ils, ces personnages, qui semblent sculptés dans le grès sombre des maisons de Haworth et en ont toute la rudesse sauvage? Ils se présentent à nous comme des réfractaires, des rebelles, des êtres ravagés par le mal de vivre et tirant d'eux-mêmes les modulations angoissées d'une conscience vouée à la double postulation du bien et du mal. Sans cesse attirés par l'abîme, ils sont ces anges noirs, dressés contre des forces qui les dépassent et dont ils ne reconnaissent pas les pouvoirs. En ceci, les deux principaux héros des Hauts de Hurlevent, Catherine et Heathcliff, qui ne se quittent que pour mieux se trouver et se perdre au sein d'un impossible amour, vivent intensément une expérience bouleversante, qu'ils transcrivent sur un plan surnaturel. Et ils sont aussi dénués d'espoir qu'ils le sont de possession charnelle, car on n'insistera jamais assez sur le côté virginal de ce roman où tout est transcendé par l'esprit, sur sa rayonnante pureté, sur le mysticisme panthéiste de ce héros maléficié qui, ayant bu comme Tristan Iseut le filtre fatal, s'affronte et se déchire, enfermé dans une solitude métaphysique infranchissable. Cependant, une force irrépressible ne cessera de les pousser l'un vers l'autre et ils ne pourront échapper à ce lien mystérieux qui les unit. La mort même ne sera pour eux qu'une étape vers l'unité, et cette présence du surnaturel pèse de tout son poids sur Heathcliff au moment de la mort de Catherine, car les âmes échappent à l'anéantissement et continuent à nous hanter par-delà le tombeau.
Le maître semblait dormir. Peu après le lever du soleil, je me risquais donc à quitter la chambre et à aller respirer dehors l'air pur et frais du matin. Les domestiques crurent que je sortais pour secouer l'engourdissement de ma veillée prolongée. En réalité, mon principal motif était de voir M. Heathcliff. S'il avait passé toute la nuit sous les mélèzes, vraisemblablement aucun écho de l'agitation de la grange n'était parvenu jusqu'à lui, à moins toutefois qu'il n'eût surpris le galop du messager envoyé à Jimmerton. S'il s'était rapproché, il avait peut-être compris, aux lumières passant de chambre en chambre, au bruit des portes ouvertes et refermées, qu'un événement s'était produit à l'intérieur. Je souhaitais, et tout à la fois je redoutais de le trouver. Je sentais qu'il fallait que la terrible nouvelle lui fût annoncée, et j'étais pressé d'en finir, mais je ne savais comment m'y prendre. Il était là, quelques mètres plus loin dans le parc, adossé à un vieux frêne, nu-tête, et les cheveux humides de la rosée accumulés sur les bourgeons qui tombaient en gouttelettes autour de lui, en un imperceptible bruissement. Sans doute se tenait-il depuis longtemps dans cette attitude, car un couple de merles voletait à trois pieds de lui, occupé à construire leur nid et aussi indifférent à son voisinage qu'à une pièce de bois. Ils s'envolèrent à mon approche. Heathcliff leva les yeux et parla. « Elle est morte, dit-il. Je ne vous ai pas attendu pour le savoir. Laissez votre mouchoir, ne pleurnichez pas devant moi. Maudits soyez-vous tous. Elle n'a que faire de vos larmes. » Je pleurais sur lui autant que sur elle. Les êtres incapables de pitié pour eux-mêmes ou pour les autres inspirent parfois la compassion. Au premier regard que je lui avais jeté de loin, j'avais compris qu'il était au courant de la catastrophe. Et la sotte pensée me traversa l'esprit que son cœur s'était apaisé et qu'il priait car ses lèvres remuaient et ses paupières s'étaient baissées. « Oui, elle est morte, répondis-je en refoulant mes sanglots et en essuyant mes joues. Elle est, j'espère, au ciel où nous pourrons tous la rejoindre si nous profitons de ce sage avertissement et si nous abandonnons la mauvaise voie pour suivre la bonne. Et elle, a-t-elle mis ce sage avertissement à profit ? Demanda Heathcliff avec l'ébauche d'un ricanement. Est-elle morte comme une sainte ? Faites-moi un récit fidèle. Comment ? Il essaya de prononcer le nom, mais n'y parvint pas, et serrant les mâchoires, il lutta en silence contre son désespoir, et son regard fixe et sauvage défia ma sympathie. Comment est-elle morte ? Reprit-il enfin, contraint malgré son courage de chercher un appui, car après cet effort, un tremblement l'agitait jusqu'à la pointe des doigts. Pauvre malheureux, me dis-je, vous avez un cœur et des nerfs en tout semblables à ceux des autres hommes, vos frères. Pourquoi vous obstinez à les cacher ? Votre orgueil ne trompera pas Dieu. Vous lui donnez la tentation de vous torturer jusqu'à ce qu'il vous arrache un cri d'humilité. Aussi doucement qu'un agneau, repris-je tout haut. Elle a poussé un soupir, s'est étirée comme une enfant qui s'éveille, puis de nouveau s'est endormie. 5 minutes après, j'ai senti un faible battement de son cœur, puis plus rien. Et a-t-elle parlé de moi ? Demanda-t-il d'un air réticent, comme s'il craignait que ma réponse ne lui fournît des détails qu'il n'aurait pas la force de supporter. Elle n'a pas repris ses sens, dis-je. Elle n'a reconnu personne à partir du moment où vous l'avez quittée. Elle repose un doux sourire aux lèvres et ses dernières pensées ont fait retour aux beaux jours de son enfance. Sa vie s'est achevée dans un doux rêve. Puisse-t-elle s'éveiller aussi doucement dans l'autre monde ? Puisse-t-elle s'éveiller dans les tourments ? Cria-t-il avec une véhémence terrible, tapant du pied et gémissant, en proie à un paroxysme d'irrépressible passion. Elle aura donc menti jusqu'au bout. Où est-elle ? Pas ici, pas au ciel, pas anéantie. Où alors ? Catherine ! Tu disais que mes souffrances te laissaient indifférente. Eh bien, je fais, moi, une prière, une seule, et je la répéterai jusqu'à ce que ma langue soit paralysée. Catherine Earnshaw, puisses-tu ne pas trouver le repos si longtemps que je vivrai ? S'il est vrai que je t'ai tué, comme tu dis, hante-moi alors. Les victimes hantent leurs meurtriers, je crois. Je sais que des fantômes ont erré sur terre, sois toujours auprès de moi, sous la forme que tu voudras. Ôte-moi à la raison, mais ne m'abandonne pas dans cet abîme où je ne peux te trouver. Dieu, c'est inexprimable, comment vivre sans ma vie, comment vivre sans mon âme ? Il cogna son front contre le tronc de l'arbre, et les yeux levés se mit à hurler, non comme un homme, mais comme une bête sauvage, lardée à mort de coups de couteau et d'épieu. Je remarquais des éclaboussures de sang sur l'écorce de l'arbre. Des taches rouges teignaient également ses mains et son front. Sans doute cette scène s'était-elle déjà produite plusieurs fois au cours de la nuit. Plus que de la compassion, elle m'inspira de l'épouvante. Et pourtant, j'hésitais à le quitter dans cet état. Mais à l'instant où il se ressaisit suffisamment pour s'apercevoir que je l'observais, il m'ordonna d'une voix tonnante de m'en aller. Et j'obéis.
À ces êtres déracinés, ravagés par une passion poussée jusqu'au paroxysme, la nature répond dans ce roman par une égale âpreté. Les éléments sont déchaînés, le vent souffle en rafale sur les landes où les tempêtes et la pluie font leur lent travail d'érosion. Tout se délite et se détruit, êtres et choses, soumis à un pouvoir envoûtant et à la fatalité tragique de l'amour.
Pendant que je parlais, je remarquai un grand chien couché au soleil sur l'herbe. Il dressa les oreilles comme pour aboyer, puis les aplatit, et annonça par un frétillement de la queue que le visiteur qui approchait n'était pas un étranger. Mrs. Linton se pencha et écouta, haletante. L'instant d'après, un pas traversa le vestibule. Voyant la porte ouverte, Heathcliff n'avait pas résisté à la tentation d'en franchir le seuil. Sans doute supposait-il aussi que je voulais me dérober à ma promesse, et s'en remettait-il à son audace. Catherine tourna vers l'entrée de la chambre un regard éperdu. Elle comprit qu'il ne trouvait pas immédiatement la pièce où elle se tenait et, du geste, m'ordonna d'aller le chercher, mais avant que je n'eusse atteint la porte, il entrait. En une ou deux enjambées, il était auprès d'elle et l'instant d'après, il la saisissait dans ses bras. Il ne dit mot ni ne desserra son étreinte pendant au moins 5 minutes et la couvrit de plus de baisers qu'il n'en avait donné, je gage, de toute sa vie. Mais ma maîtresse l'avait embrassée la première et je vis clairement qu'une affreuse angoisse l'empêchait de la regarder en face. Du premier coup d'œil, il avait compris, comme moi, que tout espoir de guérison était vain. Elle était condamnée irrémédiablement. Oh, Cathy, oh, ma vie, comment le supporterais-je ? Il proféra ces paroles d'un ton qui ne cherchait pas à déguiser son désespoir. Puis il fixa sur elle un regard d'une telle intensité que je m'attendais à voir des larmes jaillir de ses yeux, mais Ils brûlaient d'une mortelle détresse et ne se mouillèrent pas. Et quoi ? Fit Catherine en se rejetant dans son fauteuil et opposant à ce regard un front soudain rembruni, car son humeur changeait selon ses caprices comme girouette au vent. Vous et Edgar m'avez brisé le cœur, Heathcliff. Et tous deux, vous venez vous lamenter auprès de moi comme si c'était vous qui étiez à plaindre. Je ne vous plaindrai pas, certes non. Vous m'avez tué, et cela vous a profité, je vois, que vous êtes vigoureux. Combien d'années comptez-vous vivre encore quand je n'y serai plus ? Heathcliff s'était agenouillé pour l'enlacer. Il essaya de se lever, mais elle le saisit par les cheveux et l'empêcha de bouger. « Je voudrais pouvoir vous retenir, » continua-t-elle avec amertume, « jusqu'à ce que nous soyons morts tous les deux. Peu m'importe que vous souffriez, vos souffrances ne me touchent pas. Pourquoi ne souffririez-vous pas ? Je souffre bien, moi. M'oublierez-vous ? Serez-vous heureux quand je serai sous terre ? Dans 20 ans d'ici, direz-vous, voilà la tombe de Catherine Earnshaw. Je l'ai aimée autrefois, il y a longtemps. J'étais affreusement malheureux de la perdre, mais cela est passé. J'en ai aimé beaucoup d'autres depuis. Mes enfants me sont plus chers qu'elle ne me le fut. Et quand je mourrai, je ne me réjouirai pas d'aller la rejoindre, mais je m'attristerai de les quitter. Direz-vous cela, Heathcliff. Ne me torturez pas, jusqu'à ce que vous m'ayez rendu fou comme vous, cria-t-il en dégageant de force sa tête et en grinçant des dents. Pour un spectateur de sang-froid, ils formaient tous deux un étrange et terrifiant tableau. On comprend que Catherine conçut le ciel comme un lieu d'exil si, en même temps que son corps terrestre, elle ne devait pas dépouiller son âme. Une rancune sauvage se peignait sur son visage pâle, ses lèvres se décoloraient et ses yeux jetaient des flammes. Ses doigts se crispèrent rigidement sur les boucles de cheveux qu'elle tenait. Quant à lui, cédant d'une main pour se lever, il avait pris de l'autre le bras de Catherine et ses capacités de douceur étaient si peu en accord avec les ménagements qu'exigeait l'état de la malade que, lorsqu'il la lâcha, je vis 4 meurtrissures bleues imprimées sur la peau exsangue. « Êtes-vous possédé du démon ? » poursuivait-il sauvagement, « pour me parler ainsi quand vous êtes mourante. Savez-vous que tout ce que vous me dites sera gravé au fer rouge dans ma mémoire et me brûlera toujours plus profondément, à jamais, quand vous m'aurez quitté ? Vous savez que vous mentez en disant que je vous ai tué, et vous savez aussi, Catherine, que je ne peux pas plus vous oublier que ma propre existence. » Ne suffit-il pas à votre infernal égoïsme que je me torde dans les tourments de la géhenne alors que vous reposerez en paix ? Je ne reposerai pas en paix, dit Catherine, rendue au sentiment de sa débilité physique par les soubresauts de son cœur si désordonnés qu'ils étaient perceptibles à la vue et à l'ouïe. Son émotion atteignait au paroxysme. Elle attendit de se calmer un peu et reprit avec plus de douceur. « Je ne vous souhaite pas de tourments pires que ceux que j'endure, Heathcliff. » Je souhaite seulement que nous ne soyons jamais séparés. Et si un mot de moi vous revient par la suite et vous afflige, songez que je souffre de la même souffrance sous terre et pardonnez-moi pour l'amour de moi. Venez ici et remettez-vous à genoux. Vous ne m'avez jamais fait de mal dans votre vie. Et la rancune que vous me garderiez vous serait plus cruelle que le souvenir de mes paroles dures. Ne voulez-vous pas revenir près de moi ? Heathcliff approcha du dossier de son fauteuil et se pencha par-dessus, toutefois pas assez bas pour qu'elle pût voir son visage livide d'émotion. Elle allait lever la tête vers lui, mais avant qu'elle pût le faire, il se dirigea vers la cheminée et s'y tint silencieux, le dos tourné. Mrs. Linton l'observait avec inquiétude. Chacun de ses gestes éveillait en elle un sentiment nouveau. Après l'avoir longuement regardé en silence, elle me dit d'un accent de déception indignée, « Vous voyez, Nelly, il ne fléchirait pas un instant, fût-ce pour me retenir loin du tombeau. Voilà comment il m'aime. Mais après tout, que m'importe, ce n'est pas là mon Heathcliff. Le mien, je l'aimerais en dépit de tout, et je l'emporterai avec moi. Il est dans mon âme. D'ailleurs, poursuivit-elle rêveusement, cette prison délabrée me pèse plus que tout. Je suis lasse d'y être retenue captive. » À me réfugier dans ce monde de gloire et non plus sortir, ne plus l'entrevoir confusément à travers mes larmes, ne plus soupirer après lui derrière le mur d'un cœur douloureux, mais être réellement avec lui, en lui. Nelly, sans doute, vous croyez plus heureuse que moi, florissante de santé et de vigueur, vous me plaignez, mais tout cela va changer. Bientôt ce sera à moi de m'apitoyer sur vous, car je serai incomparablement au-delà et au-dessus de vous tous. Pourquoi ne veut-il pas être auprès de moi ? J'en suis surprise, murmura-t-elle, se parlant à elle-même. Je croyais qu'il le souhaitait. Allons, ne me faites pas cette figure. Venez près de moi, mon cher Heathcliff. Dans son ardeur, elle se redressa et s'appuya à la côtoire du fauteuil. À cet appel pressant, il tourna vers elle un visage absolument désespéré. Ses yeux dilatés d'horreur étaient humides. Un mouvement de houle soulevait convulsivement sa poitrine. Un moment, ils gardèrent leurs positions respectives et je ne saurais dire comment ils se rejoignirent. Je crois que Catherine fit un bond. Il la saisit et ils se trouvèrent unis dans une étreinte dont je pensais que ma maîtresse ne sortirait pas vivante tant elle défaillait. Heathcliff se jeta sur le siège le plus rapproché et comme je m'empressais auprès d'elle pour voir si elle avait perdu connaissance, il poussa un sourd grondement et, écumant de fureur comme un chien enragé, il la reprit dans ses bras avec une convoitise féroce. Je n'avais plus devant moi une créature de mon espèce. J'eus le sentiment qu'il ne comprendrait rien de ce que je dirais. Aussi, je me tins à l'écart et je gardai le silence, perplexe et tourmenté.
Heathcliff, être déchu, bafoué, asocial, est avant la lettre un personnage de Dostoïevski. Enfant abandonné, il a été recueilli par M. Earnshaw, le père de Catherine, dans la ferme des Hauts de Hurlevent. Or, Catherine, toute la famille le considère comme un intrus. Traité en paria, subissant tous les outrages, il se replie peu à peu sur lui-même, savourant comme un fruit amer l'horreur de sa condition. Jamais il ne perd pied au sein de sa géhenne et son insurrection prend bientôt le caractère le plus violent, le plus insensé et le plus atroce. Et bien davantage lorsqu'il éprouvera, comme le ferait la morsure d'un fer rouge, l'humiliation infligée par l'amour frustré. Lorsque Catherine, par souci de convention, par impuissance à vaincre des préjugés de caste, s'éloignera de lui pour épouser Linton qui habite une propriété voisine des Hauts de Hurlevent. Dès lors, Heathcliff ne se satisfera plus que de la volupté du désespoir, de la haine implacable qu'il entretient en lui. Lentement, inexorablement, il poursuivra son lent travail de désagrégation et de destruction, saccageant l'existence de Catherine et de ceux qui l'entourent. Jusqu'à l'instant où, devant les ruines qu'il a accumulées et les drames qu'il a suscités, et la mort de Catherine n'est pas le moindre, il comprendra l'inanité de tout effort de rébellion et de domination et son incapacité de s'anéantir en autrui et d'échapper à l'atroce solitude qui sépare les amants, fût-ce au sein de la plus brûlante passion. Il s'éveillera d'un affreux cauchemar, sans avoir vaincu l'antithèse qui divise la chair de l'esprit, le rêve de la réalité.
Triste dénouement, n'est-ce pas ? Dit-il après avoir médité un instant sur la scène à laquelle il venait d'assister. Quel absurde aboutissement de mes efforts opiniâtres. À coups de pioche et de levier, je démolis deux maisons, je m'entraîne à un travail d'Hercule, et quand tout est prêt et semble soumis à ma volonté, je m'aperçois que j'ai perdu jusqu'au désir d'enlever même une ardoise du toit. Mes vieux ennemis ne m'ont pas vaincu. Je touche au moment précis de me venger sur leurs descendants, et je le pourrais, personne ne m'en empêcherait. D'ailleurs, à quoi bon ? Je n'ai plus envie de frapper. Je suis incapable de lever la main. À croire que je n'ai travaillé tout ce temps que pour me permettre un beau trait de magnanimité. Mais il n'en est rien. J'ai tout simplement perdu la faculté de jouir de leur destruction. Et je suis trop paresseux pour détruire sans raison. Nelly, je sens approcher un étrange changement qui déjà projette sur moi son ombre. Je me désintéresse de la vie journalière au point que c'est à peine si je me rappelle la nécessité de boire et de manger. Ces deux-là qui viennent de quitter la pièce sont les seuls à conserver encore pour moi une apparence matérielle, et cette apparence me cause une souffrance qui confine au désespoir. D'elle, je ne parlerai pas, et je voudrais même la chasser de ma pensée, mais je souhaiterais de toute mon âme qu'elle fût invisible, car sa présence évoque pour moi des souvenirs qui me rendent fou. Lui, il m'émeut différemment, et pourtant je ne le reverrai jamais si je pouvais le faire sans qu'on crût que ma raison s'égare. Vous penseriez peut-être que c'est déjà le cas, ajouta-t-il avec un pâle sourire, si j'essayais de vous décrire les 1000 associations de souvenirs et d'idées qu'il éveille ou qu'il incarne pour moi. Mais gardez pour vous ce que je vous dis là. Mon esprit est tellement replié sur lui-même qu'il cède enfin à la tentation de se confier à quelqu'un. Il y a un instant, Ayrton m'a semblé être mon double de jadis, et non un être humain. J'éprouvais à son égard des sentiments tellement mitigés qu'il m'eût été impossible de l'aborder d'une façon conforme à la raison. D'abord, sa saisissante ressemblance avec Catherine crée entre elle et lui un lien effrayant. Et pourtant, cette particularité dont vous croyez peut-être qu'elle frappe le plus mon imagination est celle qui l'influence le moins. Qu'y a-t-il qui ne se rattache à elle ou ne me la rappelle ? Je ne puis regarder le sol sans retrouver son visage dans le dessin des carreaux. Dans chaque nuage, dans chaque arbre, son image m'entoure, remplissant l'air de la nuit et brillant par éclairs sur chaque objet pendant le jour. Les plus banales figures d'hommes et de femmes, mes propres traits, se jouent de moi par un air de ressemblance avec elles. Le monde entier est peuplé de terribles témoignages qui me rappellent qu'elle a existé et que je l'ai perdue. Eh bien, tout à l'heure, Ayrton a été pour moi le fantôme de mon amour immortel, de mes efforts désespérés pour défendre mon droit, de mon avilissement, de mon orgueil, de mon bonheur et de ma souffrance. Mais c'est folie de vous répéter ces pensées. Seulement, elles vous expliqueront pourquoi, malgré ma répugnance à demeurer seule, sa société ne m'est pas bienfaisante, elle aggrave plutôt le tourment perpétuel que j'endure. Voilà ce qui, en partie, me rend indifférent à ses relations avec sa cousine. Je ne peux pas, je ne veux plus faire attention à eux. Mais qu'entendez-vous par un changement, monsieur Heathcliff ? Demandai-je, inquiète de ses propos, bien que, selon moi, il ne fût pas sous le coup de la démence ou de la mort. Il était robuste et plein de santé. Quant à son esprit, depuis l'enfance, il avait marqué une propension aux idées sombres et aux bizarreries. Peut-être la disparition de son idole avait-elle fait de lui un monomane, mais sur tous les autres points, sa lucidité égalait la mienne. « Je ne le saurai que lorsqu'il se sera produit, » répondit-il. « Pour l'instant, je n'en ai pas encore conscience. » « Vous ne vous sentez pas malade, n'est-ce pas » demandai-je. « Non, Ellie, non, point du tout, » répondit-il. « Alors vous n'avez pas peur de la mort, » continuai-je. « Peur, non, » répliqua-t-il. « La mort ne m'inspire ni crainte, ni pressentiment, ni espoir. Pourquoi en aurais-je peur ? Avec ma solide constitution et ma vie sobre, mes occupations paisibles, je devrais rester, il faudra probablement que je reste sur cette terre, jusqu'à ce qu'il ne subsiste presque plus de cheveux noirs sur ma tête, et pourtant, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Il me faut un effort de volonté même pour respirer, et presque pour forcer mon cœur à battre. C'est comme s'il me fallait faire ployer un ressort rigide. C'est par contrainte que j'accomplis le moindre acte étranger à mon unique pensée, par contrainte que je concentre mon attention sur quoi que ce soit de vivant ou d'inanimé qui ne se rattache à mon obsession. Tout mon être, toutes mes facultés ne tendent que vers un seul but. Ils y ont tendu si longtemps et si exclusivement que je suis convaincu qu'ils y atteindront, et bientôt, parce que mon existence en a été consumée. D'avance, je m'y suis déjà intégré. Cet aveu ne m'a pas soulagé, mais il vous expliquera des phases de mon humeur qui autrement seraient incompréhensibles. Mon Dieu, la lutte est longue. Que n'est-elle achevée ?
Cette emprise totale de Heathcliff sur les êtres et l'action débilitante et corrosive qu'il exerce sur eux en fait en quelque sorte un messager du destin. Il est là pour rappeler l'implacable malédiction qui pèse sur ce monde, que nulle grâce, nulle rédemption ne viendra arracher à l'esprit du mal qui l'entraîne à sa perdition. Ce pessimisme sombre, amer et déchirant forme la toile de fond de ce grand livre écrit dans un presbytère de campagne par une jeune fille de 27 ans et qui nous a fait entendre le lamento de notre dérédiction.
Ainsi s'achève notre émission « Plaisir de la lecture », aujourd'hui consacrée au roman d'Emily Brontë, Léo de Hurlevent, qui a fait l'objet d'un entretien de M. Michel Manol et dont Jean Topard nous a lu quelques pages.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 27 février 1958. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Bothering, bothering, bothering.